Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Bertie Bourdon, mais aussi Margot Le Ridon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va parler de l'Iran, Marc Semo. Le week-end dernier, l'Iran a fait savoir que l'interdiction visant le commerce d'armes et d'équipements militaires à destination de Téhéran a désormais expiré au terme de l'accord international sur le nucléaire iranien et la résolution 2231 du Conseil de sécurité. Les États-Unis ayant échoué à prolonger l'embargo malgré les tentatives au sein du Conseil de sécurité. De leur côté, la Russie et la Chine ont fait savoir qu'ils ambitionnaient de développer leur coopération militaire avec la République islamique. Alors faut-il se préparer à un réarmement de l'Iran? Comment pourraient réagir les États-Unis? D'ailleurs, quelles évolutions à attendre du côté de Washington en cas de victoire du candidat démocrate? Et qu'en est-il concernant le nucléaire? Va-t-on vers une reprise du programme officiellement abandonné par Téhéran? Ou au contraire, pourrions-nous imaginer la mise en place d'un nouvel accord pour l'éviter? Pour aborder toutes ces questions, on a invité ce matin d'abord Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et spécialiste de l'Iran. Avec nous également Benjamin Hautecouverture, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes, vous, maître de recherche à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, expert sur les questions notamment de nucléaire, et on aura évidemment l'occasion d'en parler. Mais avant d'ouvrir notre table ronde sur l'Iran, place à notre retour d'eux. En partenariat avec l'Association des Prix Albert Londres, la journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Haut-Karabakh, c'est Véronica Dormant. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Véronica Dormant. Vous êtes journaliste à Libération. Vous avez passé une dizaine de jours dans le Haut-Karabakh. Je rappelle pour les auditeurs, le 27 décembre dernier, se réveillait dans ce Haut-Karabakh un vieux conflit. Haut-Karabakh, province donc de l'Azerbaïdjan, peuplée à majorité d'Arméniens. De l'Azerbaïdjan, du point de vue du droit international en tout cas, depuis les années 90, on a une enclave sécessionniste qui lutte et qui régulièrement voit ressurgir la violence, 2016, 94, et il y a eu d'autres moments encore. Mais cette fois, il y a peut-être une chose qui est différente, c'est qu'il y a la présence aussi de la Turquie, puisque l'armée turque a décidé de s'immiscer dans les combats. On va voir où est-ce qu'on en est sur le terrain et quelle issue peut-être est possible. Pour commencer, Véronica Dormant, l'un de vos derniers reportages s'ouvre sur le cimetière militaire d'Erablur, je ne sais pas si je prononce correctement, oui. On est sur les hauteurs d'Erevan. Chaque jour, il y a des familles qui viennent enterrer leurs morts. Est-ce qu'on a une idée, Véronica Dormant, du bilan humain depuis la reprise des combats le 27 septembre dernier?
C'est assez compliqué parce que le nombre de morts au front fait partie des secrets défense pour l'armée arménienne. Les listes officielles font état de 30 à 40 noms par jour. Et en fait, le fait que ce soit toujours le même nombre de morts tous les jours laisse imaginer que ça, en fait, ils lissent simplement. Donc, et pour l'instant, donc, on serait officiellement maintenant à 500, 600 morts. Mais c'est sans compter ceux qui n'ont pas été identifiés, ceux qui sont encore dans les tranchées, parce qu'il y a des images qu'on voit en revanche arriver tous les jours aussi de corps qui traînent encore. Et en fait, officiellement, on en est à moins d'un millier. En revanche, ils déclarent de l'autre côté, les Arméniens aiment beaucoup compter les morts d'en face, et selon eux, l'Azerbaïdjan en serait à plus de 5000 pertes militaires, ce qui veut dire que dans cette guerre des chiffres, donc voilà, c'est s'il suppose que l'ennemi a perdu autant, c'est qu'il se rapproche.
C'est totalement farfelu.
Vraisemblablement totalement farfelu, mais on ne peut pas savoir parce que l'Azerbaïdjan de son côté ne déclare pas du tout les morts militaires, il ne compte que les civils. Il ne déclare pas ses morts militaires, donc on ne sait pas. En fait, c'est une guerre des chiffres réels.
Parmi les personnes que vous rencontrez, il y a Arthur, qui est un jeune réalisateur trentenaire, qui est né à Erevan, qui a passé 2 ans sous les drapeaux, une mitraillette dans une main, une caméra dans l'autre, dites-vous. Il n'a pas encore été officiellement mobilisé, mais il vous raconte que son frère, qui est exilé aux États-Unis, lui, essaye déjà de venir pour justement participer au combat. Il y a un réflexe quasi atavique que vous avez senti sur place. Lorsque le pays est menacé, on part le défendre.
Absolument.
C'est très fort, ça.
Parce que pour les Arméniens, la terre, c'est leur survie aussi. C'est plus qu'une histoire simplement de territoire. Et j'ai cité un mème qui tournait beaucoup depuis le début du conflit dans mon tout premier reportage, où il y a cette espèce de dialogue entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Arménien dit, pour vous, c'est 20% du territoire. Pour nous, c'est la liberté. Pour vous, c'est 20% du territoire. Pour nous, c'est l'héritage. Pour nous, c'est l'histoire. Pour nous, c'est la... Donc, ils ont un rapport à leur terre historique historiquement qui est très fort. Ils ont un rapport à la volonté de les déloger d'un territoire qui est aussi très forte, parce que c'est pas la première fois dans l'histoire. Et donc pour eux, c'est les déloger géographiquement, c'est en fait les détruire, c'est les annihiler. Et la jonction se fait immédiatement. Et donc pour un Arménien, quand son pays ou quelque chose qui touche à son héritage est en danger, c'est un réflexe de survie, mais de tout le peuple. Et ça, je pense que c'est très ancré dans leur dans leur conscience collective. Et j'ai rencontré énormément de gens quand j'ai pris l'avion en passant par Minsk pour aller à Erevan. C'était l'un des rares derniers vols qui arrivait d'Europe, et l'avion était rempli de gens qui allaient en Arménie pour se battre. Les hommes allaient pour se battre. Ils savaient pas s'ils y arriveraient. Pour certains, n'ont jamais tenu les armes. D'autres ont fait leur service militaire en Arménie avant d'émigrer et revenaient. Les filles partaient pour faire ce qu'elles pouvaient, aider, faire les infirmières. Mais tout le monde était mobilisé dans cet effort de voilà, faut qu'on soit là. On peut pas rester loin. Et même si c'est pour 10 jours, je peux pas rester tranquillement dans mon pays occidental. Pendant que le pays et le peuple est en danger.
Oui, ils sont pas seulement dans les avions. On les retrouve aussi. Vous le dites dans un article, dans les hôtels qui servent à l'évacuation des civils, on retrouve aussi justement ces hommes qui sont, eux, prêts à partir du côté de la ligne de front.
En fait, ils ont tous été mobilisés. Il y a eu un premier appel à une mobilisation générale, et ensuite, face à l'afflux, les autorités ont un peu mis le holà. Et donc, il y a des tas d'hommes qui étaient prêts à partir, mais qu'on n'a pas laissé partir. Il y a eu des bus qui n'ont pas pu quitter Erevan ou certains villages, parce qu'il y avait trop de monde. Et il n'y avait pas besoin... Au départ,
trop de monde pour partir au combat.
Trop de monde pour partir au combat. Et ce que nous disaient les gens, c'est que pour l'instant, comme il n'y a pas besoin de chair à canon sur le front, on a besoin de spécialistes. Les premiers qui ont été mobilisés, c'est d'une part ceux qui ont fait leur service récemment et qui sont encore efficaces et actifs, et d'autre part des spécialistes dont on aurait besoin sur le front. Les autres étaient en attente. Et le fait que là, la mobilisation recommence et qu'elle a été relancée, c'est un mauvais signe, parce que ça veut dire que...
Qu'on
arrive à un moment où peut-être que justement maintenant c'est cette chair à canon qui va y passer.
C'est une hypothèse,
mais ça c'est pas très bon.
Véronica Dormant, vous êtes rendue à Goris, qui est la dernière ville avant la frontière entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, est devenue, dites-vous, le point de chute pour les déplacés fuyant les bombes, et vous y croisez notamment Siranush Ayvazian, je ne sais pas si je prononce correctement.
Ayvazian.
C'est mieux. Une jeune fille de 23 ans qui a abandonné la ligne de front, où elle était aussi. Elle a pris sa fille et puis une partie de sa famille sous le bras, et elle est arrivée sur place. Racontez-nous son périple pour arriver jusqu'ici.
Il me semble que le jour où la première bombe tombe sur son village, elle s'apprête à aller au travail. Et elle met son uniforme, et elle est dans les communications de l'armée. Donc elle n'est pas vraiment sur le front, mais elle est impliquée dans l'effort militaire déjà. Ils sont mobilisés. Et en fait, il y a une... elle me raconte que la bombe tombe sur leur QG. Sa fille est en pyjama, elle la lance dans les bras de sa mère, elle part quand même au travail parce qu'elle sait pas trop quoi faire, et sa mère ramasse tous les petits enfants, parce que c'est une grande famille avec 9 petits enfants, elle passe la journée en sous-sol, en se disant que ça peut être dans un bunker, en se disant que ça va peut-être passer, parce que c'est la première fois, pour cette génération en tout cas, qu'il y a des bombardements aussi forts de zones d'agglomération et de zones habitées de civils. Et c'est pour ça que c'était assez inattendu, c'est-à-dire que normalement la frontière, elle est très explosive, y compris en temps de paix entre guillemets, parce que simplement il y a des escarmouches, il y a des morts un peu tout le temps, personne ne s'attendait à ce que les combats deviennent aussi violents aussi vite, et surtout qu'ils touchent les civils. Et donc au départ, quand les premières bombes tombent, même les habitants du Karabakh qui ont l'habitude des violences et qui vivent en état de siège permanent ne pensent pas que ça va dégénérer aussi vite. Il y en a beaucoup qui se disent on a des sous-sols partout. On a des bunkers, on va laisser passer la tempête et on va ressortir. Et cette famille aussi descend dans le bunker et attend. Il me semble que ce jour-là, donc le premier jour de la guerre, il y a eu plusieurs explosions, ils prennent la décision quand même le soir de partir. Mais Siranush ne veut pas partir parce qu'elle est dans l'armée et elle considère que sa place est là, plus près du front, avec les gars, comme ils disent, avec nos gars. Et que même si elle n'a pas de frère ou de mari, c'est ses frères et c'est leurs hommes. Et donc voilà, elle, il y a ce sentiment aussi. Mais donc c'est la grand-mère qui prend les gamins. Elle prend une fille, une belle-fille, ils partent sur la route. Et ils font les derniers kilomètres à pied parce que, mais comme tout le monde, je pense tous les gens qui sont partis le premier jour, parce qu'il y a un bouchon, en fait, c'est une route, vous imaginez une route dans les montagnes, qui est un serpentin entre des rochers, et il y a deux voies. Donc là, même sans être endommagé, il y a un bouchon qui se forme très rapidement, et donc il faut traverser, et de l'autre côté, ils se font récupérer... par des gens qui les accueillent.
On pense pas que ça va durer et en même temps, on part dans la précipitation. Il y a un moment, vous racontez, alors c'est pas à Goris, mais c'est à Stepanakert, vous montez dans les immeubles qui ont été abandonnés et vous trouvez des appartements où on a laissé la soupe sur la table, la fourchette encore plantée dans le riz, les aiguilles au pied d'un fauteuil. On est vraiment dans quelque chose... Il y a eu une précipitation absolument incroyable quand même.
Parce que ces gens-là se sont dit on attend et se sont fait surprendre par une bombe. Et dans cet immeuble en particulier, et ça c'était au début, c'était la première semaine du conflit et c'était les premiers bâtiments qui étaient touchés à Stepanakert, vraiment. La famille, donc l'un des personnages que je rencontre avait décidé de ne pas évacuer ses parents, par exemple, celui qui habite au rez-de-chaussée, et s'était dit... Ils ont 70 ans, leur vie est ici, ils ont tout connu, on va attendre que ça passe aussi. Sauf que là, ça tombe sur leur immeuble et il n'y a plus de solution en fait. D'une part, ils n'ont plus nulle part où habiter parce que l'immeuble est déglingué et on ne peut plus y vivre et ils n'ont pas forcément d'endroit où aller se réfugier là. Et parce que le danger devient extrêmement concret tout d'un coup. Si jusque-là, ça tombait un peu plus loin et qu'on pouvait toujours se protéger, à ce moment-là, les gens comprennent qu'il faut fuir. Mais les familles qui s'en vont et qui prennent la décision de partir, il y a un mot qui est tabou, c'est exode, refuge, enfin, ils se déplacent le temps que ça passe, c'est-à-dire que ce ne sont pas des réfugiés, ils tiquent, c'est un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer, ce sont des déplacés qui sont partis avec un petit baluchon, une brosse à dents, et qui vont revenir dès que c'est possible.
Et alors justement, ces déplacés, comment ils vivent aujourd'hui, par exemple à Goris, dans quelles conditions ils vivent, comment ils sont accueillis, nourris?
Il y a une très grande solidarité aussi qui se met en place. Une partie, ceux qui ont pu, ceux qui avaient des proches, sont allés s'installer dans leur famille. Donc j'ai rencontré une famille comme ça, qui en fait est venue dans sa maison de vacances. C'était la maison dans laquelle les enfants connaissaient très bien. Mais la plupart s'installent dans des hôtels, parce que donc Covid oblige, il n'y a plus de tourisme, alors que l'Arménie est un très beau pays, et cette région de Goris en plus est assez touristique. Il y a des très grands hôtels qui sont complètement vides et qui ont été mis à disposition des réfugiés, et avec des entraides, la mairie fournit soit en argent, soit en denrées. Enfin, il y a une espèce d'aide. Donc les hôtels, c'est dans leur intérêt aussi, mais au-delà de ça, il y a une solidarité immédiate, et ces familles sont installées là et sont nourries, sont logées, sont blanchies. Il y a des points de collecte dans toute la ville de vêtements et de tous les biens de première nécessité. Et toute la ville, on sent beaucoup à Goris, mais même à Erevan, c'est plus loin, mais on sent quand même que toute l'activité humaine est orientée vers le front et vers cette aide, vers cette entraide. Et en tout cas, mentalement, tout le monde est là-bas.
Ce front, justement, est-ce qu'il bouge, Véronica Dormant? Est-ce qu'on peut faire un peu un bilan de ce que l'armée azerbaïdjanaise, épaulée par l'armée turque, arrive à prendre comme territoire?
Alors, d'après leur déclaration, ils ont récupéré des points qu'ils avaient perdus depuis 1994 et qu'ils n'avaient pas réussi à récupérer. Mais tout ça, c'est un front qui est assez mobile et qui l'a toujours été. C'est des points de terre et de villages fantômes, en fait, où plus personne n'habite. C'est-à-dire qu'ils prennent c'est vraiment des positions. Là, c'est une guerre de positions. Le front n'a jamais, enfin, là, il est à l'avantage, d'après ce que je comprends et d'après ce qu'il communique, il est à l'avantage de l'Azerbaïdjan qui prend des positions. Mais il y a aussi des choses très contradictoires où, l'Azerbaïdjan pouvait déclarer, on a pris une ville, on a planté un drapeau, et puis on voyait 2 heures plus tard des vidéos qui montraient que c'était pas vrai du tout et qu'en fait, cette ville était toujours du côté arménien. Donc, le front fluctue, mais reste vraiment, pour l'instant, il n'est pas enfoncé.
Et est-ce qu'on peut imaginer, j'imagine que c'est difficile à dire, mais qu'on prenne une ville comme Stepanakert? Impossible à dire.
C'est impossible à dire, et ça demanderait... nous, ce qu'on se disait, ce que nous disaient un peu les gens sur place au moment où on y était, c'était que ça demanderait un tel effort de guerre, et ça demanderait... En fait, il faudrait juste la pilonner complètement.
Sachant qu'il y a encore des civils qui sont dedans.
Voilà, il faudrait la pilonner, et puis c'est en hauteur. C'est-à-dire que le front, il bouge un peu en contrebas, donc géographiquement, c'est... Il y a des montagnes qui protègent un peu. Prendre Stepanakert, ça veut dire, oui, on pourrait... Si on bombardait, j'imagine, si on transformait Stepanakert en Grozny, peut-être que... Mais ça n'a pas l'air d'être l'intention non plus. Parce que depuis le départ, les bombardements ciblaient plutôt des installations militaires ou le ministère des situations d'urgence. C'était quand même un peu ciblé. Et pour effrayer les civils, pour faire fuir les civils. Il n'y a pas... pareil, c'est des suppositions et aucun expert militaire n'a été capable de le dire, mais il n'y avait pas de volonté de d'effacer complètement la ville. C'est pas ça qui se passait.
Vous parlez de Grozny, il faut parler de la Russie justement. Il y a une question qui se pose depuis le début de ce retour, ce regain de violence, c'est jusqu'où au fond la Russie est prête ou pas à soutenir l'Arménie, sachant qu'il y a un accord de coopération sécuritaire entre l'Arménie et la Russie, mais qu'en même temps la Russie vend aussi des armes à l'Azerbaïdjan. Donc la question qui se pose, c'est jusqu'où est-ce qu'elle est disposée à soutenir l'Arménie. Ça, c'est la première question. Et puis l'autre qui va en face, c'est jusqu'où est-ce que Poutine est éventuellement aussi prêt à mettre la pression sur Erdogan pour qu'il sorte de ce conflit ? Sur les deux questions.
Les deux questions sont très liées et la Russie, comme on a pu le constater ces dernières années, est très plutôt dans la réaction immédiate et plutôt dans des décisions situatives. Et donc je pense qu'au début, la Russie a attendu de voir ce qui se passait. Par ailleurs, au regard du droit international que la Russie respecte quand elle en a envie, l'Arménie n'était pas attaquée et le Karabakh ne fait pas partie de l'Arménie. Donc la Russie n'avait aucune raison d'intervenir, en tout cas vraiment si on reste très formaliste, au début.
Au titre du traité de l'organisation du traité sécurité collective, qui voilà. Garantit l'intégrité territoriale de ses membres.
Voilà, à partir du moment où le territoire arménien est touché, là où la Russie a des bases aussi, la Russie est obligée d'intervenir, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. La Russie a intérêt aussi à ce que cette zone reste un conflit gelé qui se réchauffe de temps en temps, une zone instable, parce que ça fait partie de son glacis de conflits gelés, de territoires qu'elle contrôle. Je ne suis pas une experte et je ne sais pas ce que pense Monsieur Poutine. Je ne suis pas dans sa tête, mais ce qui semble crédible, c'est qu'il a été surpris par l'avancée d'Erdogan, qu'il ne sait pas forcément jusqu'où il peut lui tenir tête, qu'il n'a pas forcément envie de lui tenir tête et il n'a pas encore sous-pesé est-ce qu'il vaut mieux lui tenir tête ou ne pas lui tenir tête, que l'Arménie c'est une monnaie d'échange, c'est pas une vraie... il y a ce traité qui les lie, mais il y a aussi la vente d'armes à l'Azerbaïdjan et les relations avec la Turquie sont presque plus importantes que les promesses faites à l'Arménie. Et c'est ça le drame aussi de cette histoire, c'est que c'est un conflit qui engage des populations très concrètes sur un tout petit territoire, mais que les acteurs et les seuls qui peuvent vraiment influencer la situation, à savoir Poutine et Erdogan, pour eux, et même les Azerbaïdjanais, je pense, pour Erdogan, sont pas aussi importants que son projet à lui, celui qu'il a d'avancer sur cette diagonale. Ce que pensent aussi les experts, c'est que Poutine est le seul à peu près à pouvoir mettre un stop à tout ça. Est-ce qu'il attend encore de voir? Est-ce qu'il temporise? Est-ce qu'il n'arrive pas, en fait, à tenir tête à Erdogan? Parce que leurs relations sont très compliquées aussi. Et il a beau déclarer que nous sommes des partenaires, bon, on a très bien vu que c'est ce partenariat aussi, la confiance a des limites. Et certainement qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Donc ça veut dire que la médiation qui a été entamée par le groupe de Minsk, donc c'est-à-dire la France, les États-Unis et la Russie, a peu de chances de rassembler les conditions d'une solution politique.
Oui, mais il faut qu'elle existe quand même. Et c'est très important. Et non seulement qu'elle se réunisse, mais qu'elle fasse des déclarations et qu'il y ait un acte de présence et qu'il y ait un effort visible. Et voilà. Ensuite, Pachinian a expliqué hier que le premier ministre arménien Pachinian a expliqué qu'il n'y a pas de solution diplomatique pour l'instant. Sauf si la Russie acceptait voulait envoyer une force pacificatrice, mais ce dont l'Azerbaïdjan veut pas. Donc pour l'instant les positions sont complètement conciliables. Mais il faut que le groupe de Minsk travaille parce que ce sera pas, enfin voilà, faute de mieux.
Peut-être une réaction ici avec nos invités Thierry Coville, Benjamin de Couverture, Marc Semo sur ce cas du Haut-Karabakh avant d'ouvrir notre dossier iranien. Thierry Coville.
Oui,
c'est sans obligation. Hein.
Ça me rappelle quand je disais il y a quelques années que l'Iran avait joué un rôle de médiation dans le premier conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'était vrai parce que je me rappelle, j'ai même lu les mémoires de Rafsanjani. Il rappelle que ils se sont impliqués. Donc, je sais pas si c'est lié à notre débat aujourd'hui, mais l'Iran n'a pas toujours un rôle d'agitateur et de déstabilisateur dans la région. Ils sont très inquiets. Hein. C'est deux pays avec qui ils ont des très bonnes relations. Il y a une minorité azérie en Iran, une minorité arménienne. Ils ont reçu des obus qui ont franchi la frontière iranienne. Donc ils suivent ça de très près et ils voudraient qu'il y ait l'appel plutôt aussi. D'un autre côté, des représentants du guide, je crois, ont plutôt pris parti pour l'Azerbaïdjan. Donc ça montre bien aussi la dualité du pouvoir en Iran. Mais L'Iran suit ça de près et je pense qu'ils voudraient bien. Je pense que leur intérêt, c'est la stabilité dans la région. En tout cas.
Merci beaucoup, en tout cas, Véronique Adorman, d'être passée dans nos studios. Je rappelle que vous êtes donc journaliste à Libération et qu'on peut retrouver vos excellents reportages sur le site de Libération. Merci infiniment à vous.
Merci.
Չարի ձերքով մենք որ փացա Եկեք մեկ դեպ միավորվե Հայրենիքի կարոտնալը Հայաստանից մանկուս ձերքվա Չարի ձերքով մենք որ փացա Եկեք մեկ տեղը միավորվեք Հայրենիքի կարոտնալ
Voilà, c'est sur cette très belle musique d'un collectif d'hommes et de femmes qui a collecté des chants dans cette région qu'on va tourner notre page arménienne, azerbaïdjanaise pour nous tourner du côté de l'Iran. Offensive sur l'armement, c'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Dimanche dernier, l'Iran a déclaré que l'interdiction visant la vente d'armes à Téhéran avait expiré et que le pays était dorénavant libre de se doter de nouveaux matériels, ce qui depuis longtemps inquiète les États-Unis évidemment.
L'administration Trump a toujours su ce que représentait vraiment le régime iranien. Des révolutionnaires radicaux connus pour leur soutien au terrorisme international et à l'antisémitisme. Le président Trump a compris que l'accord sur le nucléaire iranien avait été un échec cuisant. Cela n'a pas ramené l'Iran dans la communauté internationale, ni ne l'a freiné sur le chemin vers l'arme nucléaire. Imaginez seulement si l'Iran pouvait librement acquérir de telles armes. Nous n'avons pas l'intention de laisser faire cela.
Voilà donc l'inquiétude formulée par Mike Pompeo le 21 septembre dernier. Alors à quoi faut-il s'attendre ? Faut-il craindre un transfert massif d'armes ? En tout cas, Moscou et Pékin ont déjà signifié leur ambition de vendre des armes à Téhéran. Iran, deux points, offensive sur l'armement. C'est la question qu'on se pose ce matin avec Thierry Coville, Benjamin Haute-Couverture, comme chaque vendredi. On est en partenariat avec Le Monde, Marc Sémo. On savait, Marc, que la fin de cet embargo sur les armes allait arriver. Et c'est évidemment une conséquence de la décision Donald Trump de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. Et évidemment, la fin de cet embargo va avec toutes les inquiétudes sur un possible réarmement de l'Iran.
De fait, la levée de l'embargo sur les armes pour l'Iran, qui est devenue effective, dont une indifférence quasi générale, aura des effets dévastateurs sur le Moyen-Orient. Et bien au-delà. Alors, pour rappeler brièvement, il avait été décrété par l'ONU et l'Union européenne, et puis endossé par la résolution 2231, qui endossait l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Et cela prévoyait que, au bout de 3 ans, après la levée des autres sanctions internationales, devait aussi être levée cette question de l'embargo au fur et à mesure de la mise en œuvre de l'accord qui prévoyait donc l'arrêt du programme nucléaire iranien et sa mise sous contrôle international. Or, l'Iran a recommencé à enrichir de l'uranium au-delà des taux et de la quantité prévue par l'accord de Vienne, qui était une réponse à la stratégie de pression maximale de l'administration Trump, qui, rappelons-le, s'était retirée du traité en mai 2018 et a depuis encore durci les sanctions économiques qui étouffent l'Iran. Alors, l'accord négocié à Vienne entre Téhéran et les 5+1, juste pour rappeler, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne, avait certes d'énormes insuffisances. En outre, il ne prenait pas en compte des questions cruciales comme la balistique ou les tentatives de déstabilisation régionale menées par Téhéran. Mais c'était néanmoins un cadre qu'il fallait compléter. Et c'est là qu'on voit les effets dévastateurs du retrait américain. Dans une tribune sur le site web du Monde, plusieurs anciens ministres français des Affaires étrangères, dont Bernard Kouchner, un ancien Premier ministre, comme Bernard Cazeneuve,
Manuel Valls
ont lancé un cri d'alarme en affirmant que la non-reconduction de l'embargo est une erreur stratégique majeure. Effectivement, déjà le président Hassan Rouhani, le président iranien, dit « on va acheter et vendre des armes à tout le monde, les Russes et les Chinois se sont prépositionnés ». Et c'est là qu'on voit qu'en se retirant unilatéralement du traité, Donald Trump s'est totalement isolé et s'est enlevé les moyens de peser. Alors, Londres, Paris, Berlin ne l'ont même pas suivi au Conseil de sécurité. L'idée de la part des diplomates européens, des diplomaties européennes, est de ne pas totalement couper les ponts avec la Russie, la Chine, mais aussi avec Téhéran. Leur pari, c'est une nouvelle administration américaine.
Benjamin de Couverture, ce qu'évoque Marc Semo et cette fameuse tribune au Monde avec plusieurs personnalités politiques françaises qui se prononcent contre la levée de l'embargo, considérant que c'est une erreur majeure, vous êtes d'accord? Il aurait fallu reconduire l'embargo sur les armes?
Écoutez, je trouve que déjà cette tribune a déjà le mérite de ne pas se réjouir d'une situation qui met du poil à gratter ou un grain de sel dans les positions diplomatiques du président Trump. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la pression maximale de Trump n'est pas partagée par les partenaires européens, par un certain nombre de gens, nous autres, qu'il faut se réjouir de l'arrivée à échéance de cet embargo. On le savait, ça allait arriver. C'était une disposition de la résolution 2231 qui entérine effectivement l'accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire. Mais cette disposition était liée effectivement à l'avancée de la mise en œuvre du plan d'action. Le moins que l'on puisse dire, c'est que naturellement, ce plan d'action a du plan dans l'aile. Et que donc, l'avancée de ce plan d'action, corroboré, vérifié tous les trois mois par les inspecteurs de l'AIEA, est un peu sujette à caution. En tout cas, est une question complexe. Et imaginez que ce retour, ou plutôt cette fin de l'embargo, est un mécanisme automatique le 18 octobre, parce que ça avait été prévu comme tel en juillet 2015, est insuffisant. Mais là où je prendrais peut-être un petit peu mes distances, je comprends parfaitement cette tribune et je la trouve bienvenue encore une fois dans le paysage. Là où je prendrais un petit peu mes distances, c'est que on peut faire de cette levée de l'embargo d'abord une lecture diplomatique et légale, qui a gagné, qui a perdu, Trump a du plomb dans l'aile, les Mollahs se réjouissent, etc. Peu importe. Je pense que le plus important, c'est la question de se savoir effectivement. À l'issue d'une lecture militaire et stratégique de la levée de l'embargo, si c'est une bonne chose. C'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne nouvelle, cette levée de l'embargo, pour la stabilité régionale? Et là, moi, où je me distingue un petit peu de ce que vient de dire Marc Semo, c'est que je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va pas changer grand-chose à court et moyen terme. Pourquoi? Parce que d'abord, cet embargo ne touchait pas les capacités défensives de l'armée iranienne. C'était comme ça, en tout cas, que c'était perçu par les 5+1. Ensuite, il ne vous a pas échappé que l'Iran est exsangue économiquement et ne peut pas se lancer dans un grand programme d'acquisition. Et enfin, l'Iran, on y reviendra certainement, se concentre depuis maintenant de nombreuses années sur ses capacités balistiques, en violation du reste, d'autres dispositions internationales et également de la résolution 2231. Donc, je ne pense pas que ça va être un game changer, si vous voulez, cette fin de l'embargo.
Alors, Thierry Coville, justement, est-ce qu'il faut s'attendre à un armement de l'Iran? Et je ne parle pas seulement de la question nucléaire, on va y venir à la question nucléaire, mais ce n'est pas la seule question. Est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui à ce que l'Iran réarme? En a-t-elle seulement les moyens? Benjamin de Couverture a évoqué cette question. Votre avis?
Oui, alors justement, je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit, je suis assez d'accord, c'est que je lisais ce texte-là, cette déclaration d'ancien ministre sur le danger de lever de cet embargo. Je pense qu'on oublie complètement, c'est quoi la stratégie régional de l'Iran. Donc je pense que c'est très simpliste. L'Iran, l'embargo sur les armes arrête, l'Iran devient déstabilisateur. Leur stratégie régionale, on connaît, elle a plusieurs éléments. Déjà, la première, c'est quand même, je rappelle quand même, l'Iran, c'est un pays qui a subi des attaques, notamment l'Irak dans les années 80, qui est dans un environnement instable. Donc la défense du territoire, c'est une priorité. Donc dans les déclarations qui ont été faites, c'est quand même l'idée à la population. On va, alors effectivement, il y a une grande faiblesse en Iran, c'est toutes les défenses antiaériennes. Qui d'ailleurs explique pourquoi l'Iran a cette stratégie d'implantation dans la région, parce qu'ils savaient très bien qu'en cas de conflit avec les États-Unis, c'est vraiment leur point faible. Donc c'est pour ça le message qu'ils ont fait passer aux Américains récemment, c'est avec toutes leurs opérations de déstabilisation, c'est vous nous attaquez, ok, mais on est capable de mettre le feu dans la région. Donc ça, c'est un premier point. Puis il y a d'autres points qui sont leurs alliances effectivement avec l'Irak. Je lis cette déclaration. Je suis un petit peu étonné. Je vois pas du tout le mot, enfin l'État islamique apparaître ni Al-Qaïda Mais pourquoi l'Iran est, notamment en Syrie, il y a la question de se battre contre ces groupes-là, des extrémistes sunnites, notamment Idlib. Il y a effectivement la rivalité avec l'Arabie Saoudite, mais du côté iranien, il y a quand même l'idée que l'Arabie Saoudite a financé ces groupes extrémistes sunnites, et ces groupes extrémistes sunnites ont quand même commis également des attentats en Iran. Donc, il y a toute une série d'éléments dans la stratégie régionale de l'Iran. Et effectivement, il y a le facteur économique. Je pense que l'Iran est effectivement dans une crise économique également pandémique gigantesque. Donc, ils sont plutôt dans une stratégie d'attentisme. Donc, je les vois mal se précipiter, acheter plein d'armements pour déstabiliser la région.
Sans compter que non seulement il y a l'argent, mais il y a toujours un système bancaire qui subit, lui, des sanctions américaines. Même de nouvelles qui sont arrivées il y a quelques jours, avec 18 banques iraniennes qui ont été touchées par un nouveau train de sanctions. Donc, au-delà de la question de savoir si l'Iran a l'argent ou pas, il faut aussi pouvoir le mobiliser pour payer éventuellement l'État qui va le vendre. Mais justement, et puis ensuite je passe la parole à Marc Semo, et puis à Benjamin de couverture, mais est-ce qu'on a une idée, parce que plusieurs fois, là, et Moscou et Pékin ont dit qu'ils étaient tout à fait disposés à accroître la collaboration militaire sécuritaire avec l'Iran et très clairement de vendre des armes. Quelles sont potentiellement les armes que pourrait acheter l'Iran? On va mettre de côté la question de l'argent, mais qu'est-ce qui finalement intéresse d'un point de vue de l'armement? On met la question nucléaire de côté, on va y venir évidemment.
Si vous voulez, je pense, d'après, moi je suis pas expert des questions militaires, mais ce qui revient toujours quand on parle de capacités militaires de l'Iran, c'est la faiblesse des défenses antiaériennes.
Donc ils ont des S-400 russes, par exemple, ça marcherait.
Ça, je pense que l'Iran y pense fortement. Voilà. Donc les systèmes de défense antiaérienne, renouveler les équipements militaires, tout ce qui est char également. Je pense que l'Iran, ils ont mis tout l'accent justement sur le programme balistique, mais tout le reste de l'armement iranien est plutôt, vieillissant. Donc il y a donc la défense antiaérienne et puis effectivement le renouvellement des armements, notamment les armements, les chars, etc.
Marc Semo.
Alors, le problème, effectivement, la levée de l'embargo en elle-même, je suis assez d'accord, l'Iran n'a pas les moyens de se lancer dans d'immenses programmes, mais le problème n'est-il pas dans cette conjugaison entre, d'un côté, la levée de l'embargo, de l'autre, les pressions économiques qui font qu'aujourd'hui l'Iran est exsangue, et troisièmement, cette reprise du programme nucléaire. Parce que de fait, on arrive, même si jusqu'ici les Iraniens sont ambigus en disant on accepte toujours ce qui est vrai, les inspecteurs de l'AIEA, etc., de fait, ils sont en train complètement de sortir de l'accord. C'est-à-dire les stocks d'uranium enrichi accumulés sont bien au-delà des quantités permises. De fait, le programme est relancé.
Oui, et puis il y a le problème aussi, Marc, de l'accès à deux sites en particulier dont on pense qu'ils sont liés au programme nucléaire iranien du début des années 2000 et qu'ils n'ont pas pu visiter, justement.
Tous les signaux se conjuguent pour quand même donner un scénario pour le moins préoccupant.
Bon, Benjamin de couverture, il va falloir nous éclairer sur l'état actuel de ce programme nucléaire iranien.
Alors, pour le moment, si vous voulez, on est obligé de s'en tenir à ce que nous disent tous les trois mois les inspecteurs de l'AIEA. Mmh. Pour le reste, naturellement, il y a des perceptions concurrentes qui émanent des services de renseignement, en particulier israéliens et américains. Mais si l'on s'en tient aux sources ouvertes et si l'on s'en tient ce sur quoi on peut dire quelque chose, qui est officiel et qui est partagé par la communauté internationale, c'est-à-dire les rapports
de l'AIEA,
on est bien obligé de conclure, si vous voulez, que le grignotage en règle des dispositions et des obligations de l'Iran au titre de cet accord nucléaire n'a pas véritablement évolué depuis un an, c'est-à-dire ne s'est pas aggravé. Les inspections de l'AIEA nous indiquent que naturellement l'enrichissement est passé de l'uranium de 3,67%, ce qui était autorisé, à 4,5%, mais depuis à peu près un an, les Iraniens ne dépassent pas ce plafond de 4,5%. Et par ailleurs, ils continuent d'utiliser des centrifugeuses de première génération, et même s'ils travaillent dans le cadre de ce qui est permis dans leur recherche et développement sur des nouvelles centrifugeuses, en revanche, le nombre de centrifugeuses impliquées dans ce programme d'enrichissement n'a pas non plus évolué, que ce soit à Natanz ou à Fordo. Mmh. Par ailleurs, je vous rappelle que toute la filière du plutonium et des installations d'Arak sont sous scellé, n'avance plus.
On a quand même le problème.
L'Iran continue, et c'est le plus important, de respecter à titre, disons, intérimaire, temporaire, les dispositions du protocole additionnel à son accord de garantie. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les inspecteurs de l'AIEA ont aujourd'hui un accès extrêmement intrusif sur la totalité des installations qui sont déclarées.
Pas sur les deux sites qui posent problème.
Mais ça, c'est autre chose.
Qu'ils aient été utilisés dans le programme nucléaire iranien au début des années 2000.
Florian Delorme, ça, c'est autre chose. Il y a deux choses avec l'Iran. Pourquoi ? Il y a le rapport au titre des obligations de l'Iran comme État partie au TNP. Okay ? C'est dans ce cadre que ont été révélées l'existence de deux sites que l'on suspecte d'avoir accueilli une partie du programme militaire entre 1999 et 2003. Ce dont je viens de parler, moi, c'est les rapports de mise en œuvre de l'accord de 2015.
J'entends bien.
Si on revient maintenant sur ce dont vous parlez là. Jusqu'en juin dernier, les Iraniens ne voulaient pas ouvrir à l'inspection de l'AIEA ces deux sites. Puisqu'on parle de deux sites, en l'occurrence. Une résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIEA de juin dernier les y a contraints une nouvelle fois, mais de manière peut-être un petit peu plus menaçante, avec une résolution, ça veut dire que le pas d'après, c'est le Conseil de sécurité. Cet été, avec en particulier la diplomatie de la nouvelle direction de l'AIEA, l'ambassadeur Grossi, le président Grossi, les Iraniens ont enfin accepté l'inspection de ces deux sites. Et ces inspections ont commencé au mois de septembre.
D'accord.
Par conséquent, on va attendre maintenant, si vous voulez bien,
le rapport
de l'agence de novembre.
Mais l'accès a été
ouvert.
Donné.
Et ce faisant, ça a un petit peu détendu la situation de l'Iran au sein de l'AIEA et dans l'ensemble de cette économie nucléaire.
Il n'y a rien d'irréparable par rapport à l'accord.
Voilà. Pour le moment, il n'y a rien d'irréparable.
Thierry Govier.
Absolument.
Oui, parce qu'il faut revenir aussi à toujours mettre, avec l'Iran, c'est assez facile de prendre un côté de l'affaire et de dire, regardez, ils sont menaçants, ou des gens qui défendent l'Iran, regardez, ce pays est bon, important pour la stabilisation. C'est quoi la stratégie de l'Iran sur l'accord sur le nucléaire? Et donc, je pense que, on a rappelé l'histoire quand même. Donc, ils signent cet accord. Donc, en juillet 2015, on l'a oublié. À l'époque, c'était quand même une grosse bagarre en Iran. Hein, et les durs à l'époque de Guide. On dit, alors, je crois que c'est François Nicolau qui dit ça, mais je pense que c'est une part de vérité. Il dit, bon, moi, j'ai pas confiance des Américains, mais en gros, allez-y, on va voir. Donc, il y avait toute une partie de l'establishment iranien qui était contre cet accord. Hein. D'ailleurs, il y a une division très claire en Iran maintenant. Donc, ils signent cet accord. Ils l'ont respecté. Hein, au moment où, bon, je parle sous contrôle de ceux qui suivent ça, au moment où Trump sort de l'accord, je crois qu'il y a 11 rapports de l'AIEA qui certifient que l'Iran respecte l'accord. Alors, ils disent pendant un an, je pense qu'il faut se rappeler aussi, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Pendant un an, ils ont des sanctions d'une violence sans précédent. Je pense qu'il n'y a pas un pays, il faudrait voir quel pays dans l'histoire a reçu des sanctions aussi violentes. Leurs exportations de pétrole sont passées de 2 millions de barils par jour à 200 000, 300 000 par jour. Hein. Donc l'économie s'effondre. Pendant un
avec
an...
Avec les conséquences sociales, quand j'imagine.
On a vu d'ailleurs...
Sanitaire.
Et en plus, effectivement, ils ont, au passage quand même, hein, je veux dire, c'est bien de faire des tribunes, etc., mais ils ont perdu le tiers de leurs recettes budgétaires. Vous imaginez dans quel état sont les hôpitaux publics pour faire face à la pandémie. Donc ils respectent l'accord. Ils viennent voir les Européens. J'aurais bien aimé que ce soit ça. Mais moi, j'ai vu ces séances en disant, qu'est-ce que vous faites? Les Européens disent, ah, c'est très important que vous respectiez l'accord. Écoutez, on est désolé, on ne peut rien faire. Il y a ces sanctions américaines, etc. Effectivement, et là, je suis assez d'accord, à partir de juin 2019, ils commencent à dire, on va tous les deux mois, je crois, prendre des mesures pour sortir de l'accord. En même temps, il y a toutes ces actions de déstabilisation dans la région du Golfe Persique. Très clairement, l'Iran est derrière, mais c'est toujours dans l'idée. Je pense que le message iranien, c'est, faites en sorte que l'accord soit tenable, parce que pour eux, ils considèrent qu'ils n'ont aucun bénéfice économique à l'accord. Rappelons l'accord 2015, c'est on a des bénéfices économiques et on tient nos engagements. Actuellement, ils disent, écoutez, vous êtes gentils, Européens,
nous, on a
tous les coûts. Vous nous dites de respecter le droit international, en gros, on n'a aucun bénéfice économique et on respecte l'accord, alors qu'il y a une partie, je vous rappelle, des durs en Iran qui disent, il faudrait même sortir du TNP. Donc, effectivement, je pense que c'est très important, il faut le rappeler, je pense que même les durs, quelque part, c'est ça où c'est intéressant, il y a, si vous voulez, régulièrement des gens au Parlement iranien qui disent, ouais, il faut sortir du TNP, etc., ils l'ont pas fait. Ils veulent pas le faire. Donc, ils ont une stratégie, moi, je pense, d'attentisme. Ils veulent rester dans l'accord, même s'ils ont donné des signes que, attention, il y a d'autres stratégies possibles hein, pour avoir de gagner des marges de manœuvre. Et très clairement, ils attendent le résultat des élections américaines en se disant, je pense que si Trump est réélu, je pense que alors là, ça va être compliqué. Si Biden est élu, il a quand même donné des signes très clairs qu'il reviendrait dans l'accord.
Donc pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas si vraiment l'Iran a l'intention ou non de reprendre le programme, parce que tout simplement, on attend, on ne sait pas quoi.
Je pense que globalement, c'est par consensus. En Iran, l'idée, c'est de rester dans l'accord. et vraiment d'attendre les élections américaines. Je pense qu'ils l'ont dit, hein, si Biden revient dans l'accord, s'il y a des compensations pour les sanctions américaines, je pense qu'ils vont rentrer dans l'accord. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je veux dire, là, je pense que le message est assez clair du côté iranien.
On reviendra tout à l'heure sur l'hypothèse Biden et voir ce que ça pourrait changer éventuellement dans ce dossier-là. Mais si on sort, Benjamin, de couverture du contexte purement iranien et qu'on regarde ce que tout cela peut produire au niveau régional. Vous disiez tout à l'heure, la crainte, c'est pas seulement de voir l'Iran se réarmer, c'est aussi de voir, au fond, une escalade au niveau régional. Pourquoi pas du côté de l'Arabie Saoudite ou d'Israël, etc., etc. Jusqu'où vous pensez qu'il y a ce risque d'escalade et de réarmement généralisé pour des pays qui sont quand même déjà bien armés?
Bah, écoutez, pour le moment, moi, je ne vois pas que cette levée d'embargo puisse mener à une course aux armements dans la région, principalement pour la raison principale que l'Iran n'a pas les moyens d'une politique de réarmement et n'a pas les moyens de se
lancer
dans une course aux armements.
Et les voisins le savent.
Ce que tout le monde sait. Et quand on regarde la part du budget iranien consacré aux dépenses de défense, il est sensiblement moindre que celle de nombre de monarchies du Golfe, de l'Arabie Saoudite naturellement au premier chef. Donc on n'est pas, si vous voulez, dans la même échelle et dans le même niveau. Donc je ne crois pas tellement à ce risque-là. Tout simplement parce que les fondamentaux n'y sont pas. Et même si, et par ailleurs, ce serait corroboré par ce que vient de dire M. Coville sur le fait qu'il n'y a pas de stratégie iranienne avérée, officielle ou non, de se lancer dans une hégémonie stratégique dans la région. Ça n'a pas de sens, si vous voulez. En revanche, la question pourrait se poser à partir du moment où Biden ne remporte pas l'élection et qu'on rentre dans un deuxième mandat Trump, de ce qui va se passer sur le plan nucléaire. Parce qu'à l'évidence, si c'est le cas, ce scénario, l'accord global nucléaire, là pour le coup, va mourir.
Attendez, on laisse cette hypothèse pour tout à l'heure. Hein. J'ai prévu de l'aborder tout à l'heure, si vous permettez.
Mais à ce moment-là, on parlera d'une possibilité et d'un risque d'escalade nucléaire dans la région. Mais
Marc Sémont et puis Thierry Coville.
Vous évoquiez tout à l'heure les défenses, on parlait des défenses antiaériennes. Est-ce que justement le fait que l'Iran acquiert de la Russie des S-400
ouais.
Massivement, ouais. Et le fait que sanctuarise de fait son espace aérien, est-ce que déjà ça, ce n'est pas un changement de donne?
Thierry Coville, je vous donne la parole. Thierry Coville.
Par rapport à ce qu'ont toujours menacé de faire les Israéliens, de dire on ne laissera jamais avoir la bombe, on est prêt à faire des raids préventifs, machin, etc.
Ouais. Thierry Coville.
Bon, moi, je suis pas expert en affaires militaires, mais je pense qu'au contraire, la stratégie iranienne, elle est assez claire par rapport à la politique de pression maximum américaine, c'était de dire, on n'a pas les moyens de lutter conventionnellement contre les États-Unis. S'ils nous bombardent, on peut rien faire, parce qu'on n'a pas les stratégies, les appareils de défense antiaérienne. Justement, c'est pour ça qu'on est également, ils parlent de guerre asymétrique. On est présent dans la région. Donc, au contraire, je pense que si l'Iran peut défendre son territoire, on aurait peut-être moins, si vous voulez, le sentiment en Iran qu'il faut être absolument présent en Syrie, en Irak, au Yémen, pour pouvoir répondre aux agressions américaines. Et d'autre part, je voulais rappeler aussi que il ne faut pas voir cette opposition entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ça s'est un peu calmé ces derniers mois, parce que suite aux opérations de déstabilisation de l'Iran, je sais que notamment, on parle d'une délégation des Émirats qui sont allés en Iran, parce que je pense que les pays de la région, je pense que le message iranien, c'était aussi, s'il y a une guerre dans la région, tout le monde sera perdant. Vous prendrez des coups. Donc je pense qu'il y a aussi une volonté de l'Arabie Saoudite et des Émirats que ces tensions ne dégénèrent pas.
Benjamin de couverture.
Je pense également que l'accroissement possible et probable des défenses antiaériennes, des défenses côtières de l'Iran va plutôt les détendre sur le plan de leur réaction asymétrique dans la région. Je pense que c'est plutôt effectivement ce à quoi on peut s'attendre. Là où il y a un risque, mais qui est peut-être un petit peu indépendant, mais qui reste indépendant de cette levée de l'embargo, c'est toujours le risque balistique. Aujourd'hui, pour l'Iran, l'assurance-vie du régime, c'est la capacité balistique, c'est sa capacité balistique. C'est pour ça qu'ils mettent les bouchées doubles dans l'obtention de capacité de moyenne portée et de portée intermédiaire qu'ils n'ont pas encore, puisqu'ils n'ont que des portées courtes et très courtes, ou éventuellement moyennes et effectives. Et là, ça pose un vrai problème, parce que c'est une sanctuarisation qui pourrait être une sanctuarisation agressive.
Mais justement, vous me proposez une transition parfaite. On va l'envisager, la questionner, cette question du programme balistique. Comme chaque vendredi, on est en partenariat avec l'association Cartooning for Peace. On choisit une caricature, un dessin. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et alors le dessin ce matin nous parle des fantasmes du guide suprême iranien.
Dans la tête d'Ali Khamenei, c'est le titre que l'on pourrait donner à cette caricature et elle est signée d'un Iranien. Un petit mot sur lui parce que c'est pas souvent que nous avons un dessinateur de ce pays. Son nom est Ali Jamshidifar. Il est illustrateur pour la bande dessinée et la presse depuis plus de 15 ans. Le magazine pour lequel il travaillait en Iran a été contraint de fermer en 2014. Ali Jamshidifar, lui, a dû fuir l'Iran et il est aujourd'hui réfugié politique en France. Et c'est ici qu'il poursuit son travail de caricaturiste. Alors ce dessin, il l'a réalisé pour France 24 il y a deux jours, précisément en réaction à la fin de l'embargo sur la vente d'armes à l'Iran. Il s'agit donc d'une caricature d'Ali Khamenei, le guide suprême, que l'on reconnaît à son turban noir, ses petites lunettes et sa barbe blanche. Il porte un masque, ce qui nous empêche de savoir s'il sourit. Il est en tout cas très occupé. Un missile balistique dans une main, un taille-crayon géant dans l'autre, le voilà qui aiguise activement son arme. Tel un dessinateur affûtant ses crayons après une période d'arrêt, il se prépare à la reprise de son occupation favorite. Sauf qu'il ne s'agit pas de dessin, mais d'activité militaire et en particulier du programme balistique. En effet, l'Iran qui développe ses missiles balistiques depuis la guerre en Irak n'a jamais renoncé à ce type d'arme malgré la pression des Occidentaux qui craignent que ces missiles transportent un jour des têtes nucléaires. Mais pour l'Iran, ce sujet n'est absolument pas négociable. Nous ne demandons la permission à personne, a toujours rappelé le guide suprême. Même l'accord de Vienne signé en 2015 n'est pas parvenu à l'encadrer. Et ce que nous rappelle aussi ce dessin, c'est le rôle central d'Ali Khamenei dans le développement du programme balistique. C'est bien lui en Iran qui a le pouvoir dans le domaine et non le président Rouhani. En tout cas, dans ce dessin, Khamenei est sur un petit nuage, littéralement, même si on aperçoit au loin ce qui ressemble fortement à un champignon atomique. Et tandis qu'il taille ses missiles, eh bien on voit grâce à une petite bulle qu'il se rêve volant dans le ciel, chevauchant l'une de ses armes. « Youpi !» s'écrit-il le bras levé en l'air. La trajectoire du missile évoque celle d'un bouchon de champagne. Je ne l'invente pas, c'est l'interprétation que me confiait l'auteur que j'ai eu au téléphone. Parce qu'en Iran, précisait-il, on n'a pas de champagne, mais on a des missiles.
Merci beaucoup Mélanie Chalandon. Chronique évidemment à retrouver sur le site de France Culture, sur le fil Twitter aussi de Culture Monde. Merci beaucoup Mélanie. Réaction Thierry Coville, Benjamin Couverture.
C'est rappelé aussi, bon, il y a cette idée effectivement, c'est pas que Khamenei qui a décidé du programme balistique iranien, je veux rappeler aussi, tout est une question de perception, il faut peut-être comprendre la perception de l'Iran. Pourquoi ils ont voulu à un moment développer l'arme nucléaire et un programme balistique? Ils ont été attaqués, donc c'est septembre 1980, par Saddam Hussein, l'Irak, hein, à l'époque soutenu quand même allègrement par tous les pays occidentaux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas dit un mot. L'Iran était seul. Donc, et ça allait leur faire changer d'avis maintenant. Et il n'y a pas Khamenei qui pense ça, hein, si vous voulez, même la population moyenne.
Hein. Et nous, on a oublié ici.
Ils ont été attaqués par l'Irak. Et tous les cadres, notamment les durs, ils ont fait leurs armes durant cette période. Donc, ils pensent vraiment fondamentalement que l'Iran doit sanctuariser son territoire national et ne pas compter sur les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut pas oublier cette perception de l'Iran. Ils ont été attaqués. Il y a quand même 500 000 morts de chaque côté, des milliers de blessés, etc. Donc c'est important en Iran. Ça.
Et en particulier, je complète sur le plan balistique parce que c'est la guerre des villes. C'est la guerre des villes dans ce conflit Iran-Irak dans lequel Saddam Hussein a eu la supériorité tactique sur le plan balistique. C'est bien Saddam Hussein qui a introduit dans le Moyen-Orient la variable balistique. Hein, complètement. Et c'est en réaction à cela que, effectivement, l'Iran s'est lancé dans un programme balistique tous azimuts à partir du début des années 90. Alors après, d'autres menaces sont venues dans leur perception s'ajouter à leur calcul stratégique, c'est-à-dire Israël, les États-Unis, puis après la fourniture de missiles de courte et de moyenne portée à leurs alliés dans la région, etc., les Houthis au Yémen, etc., etc. Donc tout, finalement, la suite a validé le calcul stratégique qui aujourd'hui est central. Nous allons devenir une puissance balistique. Mais cela est sans rapport avec la levée de l'embargo, pour revenir à cette caricature, puisque sont toujours en place tous les embargos interdisant à l'Iran de se doter de missiles balistiques, et en particulier c'est l'annexe B de la résolution 2231 dont Marc Cémo parlait tout à l'heure, qui interdit à l'Iran de mener des essais de missiles balistiques qui ont vocation à avoir une tête nucléaire. Alors naturellement, il peut y avoir toutes les arguties possibles sur le fait que la tête...
Vous devinez,
Thierry Cabuier. Non, je veux dire, il y a... On a le droit parce que la tête n'est pas nucléaire, etc.
J'aime pas me retrouver dans la position de celui qui défend toujours la position de l'Iran. Mais je veux dire, l'Iran a quand même des arguments assez sérieux en disant on développe des missiles qui n'ont pas vocation à avoir...
Oui, alors c'est ça. Mais alors c'est là, si vous voulez, où ça devient compliqué parce que c'est une bataille d'experts. Quand vous regardez la tête conique d'un missile, celle qui peut emporter une arme nucléaire ou une arme de destruction massive ou celle qui ne peut pas en emporter, il est très difficile de s'en rendre compte. Et par conséquent, ils ont beau jeu de continuer leur programme. Et quand on voit le lanceur spatial qui a été testé en avril dernier, il s'est fait avec des propergoles solides. Et les propergoles solides, ça sert à quoi? Ça sert à envoyer des missiles intercontinentaux. Des missiles intercontinentaux sans charge nucléaire, ça n'a pas de sens. Donc, par conséquent, la violation patente par l'Iran de ses obligations au titre de la résolution 2231 sur le balistique est une donnée fondamentale de l'équation régionale parce que c'est une source de crainte pour tous les États de la région. Et c'est pas parce que Trump est un sale type qu'on va oublier de le dire, si vous voulez. Et donc ça, c'est une menace pour tout le monde, y compris pour les voisins européens, puisque les missiles qui arrivent à des portées de 2, 3 à 4 000 kilomètres sont bientôt opérationnels. Et par conséquent, ça mettra l'Europe à portée de ces missiles. Donc c'est quand même une question que l'on... Après, on peut discuter de stratégie, on peut parler de perception, etc. On parle aussi d'une réalité militaire qui est potentiellement dangereuse et qui est au moins risquée.
Alors, on va évoquer l'hypothèse Biden. Pour l'instant, c'est qu'une hypothèse. Thierry Coville, on va commencer peut-être du côté iranien. A priori, on devrait avoir, en tout cas, à en croire les sondages. Bon, la dernière fois, on avait vu ce que ça donnait. Mais enfin bon, disons quand même qu'a priori, sauf si Donald Trump se barricade dans la Maison Blanche, on devrait avoir Biden bientôt à la Maison Blanche. Marc Semo fait comme ça.
Le barricadage dans la Maison Blanche risque de durer longtemps avec les procédures juridiques.
Enfin... Bon, bref, alors on va faire quand même l'hypothèse. Qu'est-ce qui se passerait du côté de l'Iran? Est-ce qu'on est enclin à envisager un nouveau dialogue ou au fond aujourd'hui le camp des modérés, je mets des guillemets, des réformateurs, je mets encore des guillemets, est trop marginalisé pour envisager une nouvelle séquence d'ouverture et de dialogue?
En tout cas, c'est clair, c'est pas les modérés qui décident actuellement en Iran depuis quelques mois, depuis que l'Iran a changé de stratégie en fait. Donc en fait, c'est les durs, c'est le cercle qui entoure. On dit en Iran, c'est le deuxième État, si vous voulez. Enfin, c'est l'État qui décide. C'est tous ceux qui sont autour du Velayet Farid, le guide, etc. Mais je pense que les Iraniens, on oublie aussi, on présente les durs et les modérés. Les modérés, en gros, c'est les gentils amis des Occidentaux, et les durs, ils veulent une stratégie de déstabilisation de la région. Ils sont pragmatiques. Et donc, ils voient bien la situation économique, la crise pandémique. Donc, je pense que les durs, si jamais Biden revient dans l'accord, pour répondre à votre question, je pense que les durs sont d'accord. Je pense que c'est dur. Alors ensuite, il y aura la question de comment ça va se passer.
Les durs seraient d'accord pour renégocier avec les Américains?
Alors, je pense que les... Attendez. La réponse à... Est-ce que les durs vont s'opposer si Biden dit « je reviens dans l'accord ». D'ailleurs, c'est ce que je crois que le ministre des Affaires étrangères iranien l'a dit récemment, très clairement. Et lui, actuellement, il rendait compte à tout le monde. Hein. Il n'est pas le ministre des modérés, notamment au guide. Donc, il a dit « si les États-Unis reviennent dans l'accord, s'il y a des compensations financières à cause des sanctions, nous, de notre côté, on reviendra dans l'accord ». Et quand il dit ça, c'est l'ensemble de l'establishment qui part.
Jusqu'où est-ce que du côté Biden, vous pensez, Benjamin Couverture, qu'on est prêt justement à revenir dans cet accord et éventuellement de faire quelques concessions à l'Iran?
Alors la bonne chose, c'est qu'effectivement, c'est dans le programme du candidat démocrate, le retour au JCPOA. Maintenant, c'est dans le détail que vont se nicher les problèmes, parce que il ne peut certainement pas être une option crédible pour une nouvelle administration de revenir dans l'accord tel que l'accord était. Parce que tout le monde est d'accord, disons de manière euro-atlantique, pour dire que cet accord était intérimaire, était insuffisant, était temporaire, était insuffisant, n'adressait pas la question balistique et n'adressait pas la question de la déstabilisation par proxy de la région par l'Iran. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'une nouvelle administration démocrate ne souhaite pas reprendre ces éléments dans le cadre d'un nouvel accord. Donc, toute la question va être véritablement une question de méthodologie diplomatique. Quelles sont les préconditions? Y en a-t-il? Pendant combien de temps? Est-ce qu'il peut y avoir un accord intérimaire avec une levée des sanctions temporaires avant des progrès faits par l'Iran sur tel et tel point, etc. Donc tout peut se faire dans les 6 mois à 1 an d'une première administration. Mais là où le problème se pose naturellement, c'est que l'administration iranienne, en revanche, ne sera certainement plus la même après l'élection présidentielle de l'année prochaine. Et est-ce que ceux qui seront au pouvoir à cette époque et qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui, seront enclins, eux, à faire des concessions alors qu'ils viendront possiblement quand même des milieux les plus conservateurs. Ça, c'est moins sûr. Mais on n'imagine pas de toute façon les anges blancs démocrates revenir et dire on oublie tout mais ce Thierry qui a Coville été fait va... et on revient dans les mêmes
Thierry
termes.
Thierry Coville va vous dire que d'accord, il y a une élection présidentielle l'année prochaine en Iran, mais qu'en réalité, ça ne va pas tellement changer la donne parce que c'est de toute façon pas aujourd'hui déjà le président qui choisit, qui a de la décision sur ce genre de choses.
Thierry Coville. Je pense que très clairement, place, en plus mais... même ces élections, je pense qu'elles sont en train d'être organisées par ce cercle dont je vous ai parlé, le bureau du guide, etc. Donc ils sont en train de choisir en gros qu'il y ait quand même une compétition entre, on va dire, un candidat plutôt dur et puis un candidat dur, peut-être un profil un peu technocrate qui puisse être acceptable pour avoir un certain... Le taux de participation, c'est quand même un élément important pour les dirigeants iraniens. Il a été très faible lors de la dernière élection législative, je crois 40%. Donc je pense qu'ils ont envie aussi que cette élection soit aussi le signe que la population soutient le régime, etc. Mais d'un autre côté... Tout se déroule par, se décide par consensus en Iran. Donc, cette ligne dont je vous ai parlé, je pense que je vois mal, en plus, un président, imaginons qu'il viendrait du côté des radicaux. C'est pas possible actuellement qu'un radical qui veut sortir du TNP, à mon avis, soit élu. Donc, ce sera forcément peut-être un dur, mais peut-être un côté populiste en disant faut pas se laisser faire, etc. Par contre, il faut voir, moi, je veux pas défendre la perception iranienne, mais c'était aussi la perception européenne. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Trump? Il a voulu tout renégocier en même temps. On a vu le résultat. Heureusement qu'il y a un candidat qui veut revenir dans l'accord. Du côté iranien, ils appellent l'accord Barjom. Et donc, il y avait un grand débat en Iran en disant, bon, on fait un Barjom 1, hein, d'accord, mais le guide, etc., il disait Barjom 2 sur les missiles et Barjom 3 sur le forum régional, on veut pas en entendre parler. Mais il y avait toute une partie de l'establishment iranien qui commençait à envoyer des signaux. Bon, on est peut-être à reconnaître des limites pour la portée des missiles. Je pense qu'on peut discuter sur un certain nombre de pays, etc. Donc, je pense qu'il faut bien penser à autre chose. Il faut peut-être d'abord respecter cet accord. Et ensuite, on pourra donner des incitations, même au dur iranien, de renégocier sur d'autres aspects. Je pense que la question de la confiance, quand même, elle est très importante. Actuellement, elle est quand même... Elle est même pas zéro, elle est négative en Iran, vis-à-vis des Européens. Donc, faut revenir à l'accord qu'il y ait quand même, la compensation, les exportations pétrolières iraniennes qui remontent un peu. Là, je pense que le climat sera complètement différent.
La confiance avec les Européens, elle est totalement rompue parce ils ont quand même été assez intransigeants avec Washington pour ne pas reconduire l'embargo.
Non, la confiance n'est pas rompue.
Ils ont été déçus
par le manque de moyens des Européens.
Dans un mode de couverture.
Ils ont été déçus, et c'est tout à fait normal, par le manque de moyens qu'avaient et qu'ont toujours les Européens pour continuer à faire vivre l'accord de juillet 2015, à l'évidence. C'est pas un Instex qui a changé quoi que ce soit. Mais en revanche... ils sont, et dans le cadre en particulier de la commission de règlement des différends qui a été ouverte à l'hiver dernier, ils sont reconnaissants à l'Union européenne de les aider, d'aider le régime en place, le gouvernement en place, à maintenir quand même cet accord vivant ou vivace ou survivant jusqu'à l'élection américaine. Après quoi, un certain nombre d'options sont ouvertes quand même. Donc ils sont
à la fois...
Donc ils
pourraient à nouveau jouer un rôle de médiateur dans d'éventuels... future
absolument.
Négociation.
Absolument. Et les Américains d'une nouvelle administration auront à l'évidence besoin des Européens très très vite, parce que plus personne ne travaille sur cet accord aux États-Unis depuis maintenant 4 ans.
C'est un autre débat, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que... Enfin, de toute façon, l'Iran, faut jamais dire jamais. Ils sont toujours prêts à reprendre des relations avec les Européens, notamment si c'est un avantage sur le plan économique. Mais il faut pas oublier tout ce qui s'est passé. Je veux dire, honnêtement, du côté européen, il y a quand même un problème de crédibilité. Du côté iranien, ils ont l'impression qu'on n'a pas tenu notre parole. Donc, bon, c'est peut-être un autre débat, mais je veux dire, faut pas oublier tout ce qui s'est passé quand même.
زهره سازی خوش نمی سازد خوش نمی سازد مگر اودش بسوخت کس ندارد ذوق مستی ذوق مستی میگو سالم را کشد
Voilà, une chanson d'un chanteur iranien qui vient de décéder récemment, Mohammad Reza Shajarian. Merci beaucoup à tous nos invités, Benjamin de Couverture et Thierry Coville, d'avoir été avec nous. Un grand merci également, cher Marc Semo, de nous avoir accompagnés comme chaque vendredi. On est en partenariat avec Le Monde et c'est un plaisir. On vous retrouve la semaine prochaine. Dans un très court instant, c'est Lucille Comeau et La Critique.